Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci d'écouter Studio Tamani. Il est 8h à Djingaribère, c'est dans la ville de Tombouctou. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres de cette édition. La CEDEAO reste intransigeante sur le respect du calendrier électoral au Mali. L'organisation ouest-africaine a une nouvelle fois exigé la tenue de la présidentielle le 27 février 2022, conformément au chronogramme initial de la transition. La phase communale des assises nationales a pris fin ce dimanche 12 décembre 2021 au Mali. Sur les 749 communes, ces discussions ont été tenues dans 538 localités jugées praticables et sécurisées par le comité d'organisation. Les agents de santé de l'hôpital Gabriel Touré débutent ce lundi 13 décembre une grève de 72 heures. Ils réclament entre autres revendications l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière. Tout de suite le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Gagné Kanté assure la mise en onde, mesdames, messieurs, bienvenue. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reste sur sa position concernant le calendrier des élections au Mali. Elle a encore exigé des autorités de la transition la tenue de l'élection présidentielle le 27 février prochain pour éviter des sanctions supplémentaires. C'était au cours d'un sommet des chefs d'État de l'organisation tenu ce dimanche à Abuja, au Nigeria. Les dirigeants ouest-africains ont aussi abordé au cours de ce sommet la situation en Guinée et les sujets liés au terrorisme dans la sous-région. Draman Maïga nous fait le point.
La CEDEAO estime que les autorités de la transition ne sont pas convaincantes. Les chefs d'État de la communauté ouest-africaine exigent encore une fois la tenue des élections présidentielles et législatives en février 2022 comme convenu au début de la transition. Alors que dans une lettre, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, serait engagé à fournir un chronogramme détaillé des élections au plus tard le 31 janvier 2022. Pour le moment, les sanctions restent celles qui ont ciblé presque la totalité des autorités de la transition le 17 novembre dernier. Cependant, l'organisation sous-régionale menace de prendre des nouvelles sanctions en janvier si les élections ne sont pas organisées à la date initiale. Rappelons que lors de la rencontre du chef de la diplomatie malienne avec Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO, le 8 décembre en marge du sommet, Abdoulaye Diop avait demandé un peu plus de patience à l'organisation ouest-africaine. Le ministre avait aussi rencontré à cet effet Goodluck Jonathan, envoyé spécial de la CEDEAO au Mali, à qui il a réitéré la nécessité d'accompagner le Mali.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook et notre compte Twitter. Les assises nationales de la Refondation ont pris fin hier dimanche 12 décembre. Les travaux avaient débuté samedi 11 décembre. Ils s'y sont tenus dans 538 communes sur les 749. Son objectif, selon l'État, est la refondation du Mali sur la base des réformes prioritaires. Ces consultations, qui se poursuivent jusqu'au 30 décembre par des étapes régionales et nationales, devront aussi trancher sur une éventuelle prolongation de la transition. Mamadou Samasiku fait le point des travaux dans certaines localités du pays.
Au nord du pays, à Tombouctou, les travaux des assises se sont ouverts sans aucun incident majeur. Les élus communaux, les notabilités et les représentants des services de l'État ont ouvert les travaux de la phase communale. Abdoul Karim Traoré, sous-préfet central de Tombouctou.
Dégager les constats et des recommandations fortes qui seront les contributions de la commune urbaine de Tombouctou aux assises locales du cercle de Tombouctou, prévues les 15 et 16 décembre 2021. C'est également l'occasion de faire d'autres constats et recommandations non prises en charge par les thématiques précitées.
Au centre à Banyangara, les concertations des ANR se sont effectivement déroulées ce samedi. Mais pour des raisons de sécurité, certaines communes n'ont pas pu tenir les travaux. C'est ce qu'affirme le représentant du chef de l'exécutif régional, Al-Kassoum Asseidou Maïga.
Sur les 49 communes que nous connaissons tous, seulement 4 communes ont été retenues, qui sont entre autres pour tout le sac de Koro, la commune centrale de Koro a été retenue. Pour le sac de Pancas, 5 communes ont été retenues. Pour le sac de Banyangara, 8 ont été retenues.
10 communes sur les 15 qui comptent le cercle de Mopti participent à ces assises. Selon Issa Pléa, le sous-préfet central de Mopti, les travaux se déroulent normalement.
Avant le démarrage des travaux, il a été élaboré la cartographie des communes où on peut tenir les assises. Et c'est à la suite de cette cartographie que 10 communes sur les 15 ont été retenues.
Ces assises se déroulent normalement dans plusieurs autres endroits du pays, dont la région de Kulukoro et Kai. Rappelons que ces concertations vont se poursuivre en plusieurs phases jusqu'au 30 décembre 2021. Elles ont pour objectif de trancher un éventuel prolongement de la transition et de discuter sur les réformes prioritaires à appliquer dans le pays.
Et cette phase communale des assises nationales de la refondation n'a pas pu se tenir dans plusieurs endroits. À Kidal comme à Ménaka, les travaux des ANR ont été interrompus par les mouvements signataires de l'accord d'Alger. Une situation qui fait suite à l'appel au boycott du cadre stratégique permanent qui regroupe notamment la CMA et la plateforme. Les détails avec Aboubakrine Ag Mohamedine Yattara.
À peine les travaux des Assises nationales de la Refondation lancés ce samedi à Ménéka, elles ont été interrompues par les mouvements armés du CSP, nous confie un élu local de la région. Il affirme que les participants ont été invités à quitter incessamment la salle des réunions. À Kidal, les Assises n'ont simplement pas eu lieu suite à une décision des mouvements armés. En effet, depuis le vendredi dernier, le cadre stratégique permanent CSP a déclaré sa non-participation à ces Assises à travers un communiqué. Ce groupement qui réunit les groupes armés, notamment ceux de la CEMA et de la plateforme, reproche à l'État de l'exclure du processus de la transition. La note mentionne aussi la non-prise en compte d'une importante partie des acteurs de la vie politique malienne dans l'organisation de ces assises. Les assises de la Refondation nationale n'ont pas pu se tenir dans la commune urbaine de Gao ce samedi. Selon les sources locales, les raisons seraient liées à un manque de moyens financiers. Ainsi, les travaux sont reprogrammés pour ce lundi 13 décembre. Dans les sites du pays à Yoroso, sur les 9 communes du cercle, les assises se tiennent seulement dans 3 communes dont Yoroso, Kouri et Ourikila. La raison avancée est l'insécurité. Cependant, les habitants de ces communes se disent mécontents car, selon eux, c'était une occasion pour exposer les problèmes de leur localité et les soumettre aux autorités de la transition.
Et une grande partie de la classe politique a aussi boycotté ces assises nationales de la Refondation. Au cours d'une conférence de presse, la Coalition pour une transition réussie, qui réunit en son sein des partis politiques, des personnalités et certaines organisations de la société civile, a fait savoir son refus de participation vendredi dernier. Selon elle, ces assises ne font que diviser les Maliens. Écoutons Amidou Doumbia, il est membre du cadre d'échange des partis regroupements politiques pour une transition réussie. Il est joint au téléphone par Ali Sissi.
Aucun membre de ce regroupement, que ce soit le parrainat, que ce soit le cadre, les partis membres du cadre d'échange, tous ont décidé de ne pas participer aux assises. L'organisation de la société civile constituée de la CEMA de Mamoudiko, il y a le SADI qui n'y participe pas, la sénance de Zoumana Sanko qui ne participe pas aussi. Il y a quand même une grande partie de la classe politique qui ne participe pas aux assises actuelles. Si les assises contribuent à faire reculer la transition, parce que l'objectif d'une transition, c'est de sortir de là, si les assises ne contribuent pas à atteindre les objectifs et que les assises contribuent à diviser les Maliens, nous n'allons pas nous inscrire dans de telles démarches et ça ne peut pas sauver la transition. Nous, notre sauver la transition, c'est donner des orientations claires qui peuvent nous permettre de sortir de cette transition très rapidement. C'est clair et net, elles ne sont pas sur la bonne voie.
Amidou Doumbia, membre du cadre stratégique du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Il était joint par Ali Sissé, 8h08 à Bamako. Les épreuves écrites du concours d'entrée à la police nationale se sont déroulées samedi dernier dans plusieurs centres. À Bamako, certains candidats estiment que les choses se passent normalement malgré quelques difficultés. Par contre, d'autres dénoncent un manque de transparence dans l'organisation du dit concours. Issa Omar Togola nous en dit plus.
Au lycée Bahaminata Diallo, les candidats sont éparpillés dans la cour en petits groupes en attendant l'heure de la seconde épreuve. Certains disent ne pas se plaindre malgré quelques problèmes.
Ça se passe bien. Pour qu'on puisse avoir nos noms, pour qu'on puisse aller à nos centres même. Non, on a eu beaucoup de difficultés sur ça même.
Tout s'est passé à merveille avec les surveillants et tout. Bon. Le vendredi, ils n'ont pas affiché les salles. Bon, nous sommes venus, mais on n'a rien vu.
Par contre, d'autres candidats récalés lors des épreuves sportives se sentent profondément tristes. Ils dénoncent le manque de transparence dans l'organisation du concours.
Les résultats sont apparus 3 fois. C'est pas clair. On avait nos noms sur la liste. Ils n'y figurent plus. On nous a dit que tout se passe dans la transparence, mais on ne voit pas vraiment.
Pour rappel, les premières épreuves ont débuté en septembre dernier. Les prochaines doivent se poursuivre dans les mois à venir après celles en cours.
Le syndicat des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré entame ce lundi 13 décembre une grève de 72 heures. 13 points sont au centre des revendications, affirme le secrétaire général adjoint et porte-parole du syndicat. Pour Jimmy Kanti, si ces doléances ne sont pas satisfaites, le mouvement de grève va continuer la semaine prochaine. Il donne plus de détails au micro de Mariam Kambakeita.
Nous avons entrepris toutes les démarches administratives possibles pour que, dans un climat apaisé, on puisse discuter de nos problèmes et trouver des solutions. Face à toutes les situations, nous avons déposé un préavis de grève. Nous avons 13 points de revendication, mais ces 13 points s'articulent autour de trois axes. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, l'amélioration des conditions d'accueil et de soins, l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière. Donc ces 13 points se répartissent entre ces trois axes. Déjà, le préavis déposé couvre le 13, 14 et 15, mais aussi les 20, 21, 22 et 23. Donc 96 heures après ces 72 heures-là. Et si malgré ces 96 heures, on ne nous donne pas satisfaction, nous allons utiliser tous les moyens légaux. J'insiste là-dessus.
La transition est trouvée pour faire le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. 87 nouveaux cas positifs, 39 patients guéris et un décès ont été enregistrés dimanche dernier par les autorités sanitaires du Mali. La situation cumulée à ce jour est de 18 591 cas positifs, 15 498 patients guéris et 629 décès. Retrouvons maintenant Khalifa Goïta pour la rubrique Actu Covid.
Depuis quelques semaines, le nombre de contaminations à la COVID-19 ne cesse d'augmenter dans le pays. Une situation que des spécialistes de la santé déplorent à cause de la négligence des mesures barrières par la population. Cette flambée des cas impacte aussi les centres de prise en charge des patients de COVID, notamment celui de l'hôpital du Mali. Dr Boubacar Dramé, point focal COVID du dit hôpital, est au micro de Khalifa Goïta.
Le centre est sous pression. Au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 183 malades qui sont enregistrés pour prise en charge. On a fait le tri et la majorité sont suivis à domicile. Et il y a à peu près 47 comme ça qui sont ici sur place. Et sur les 47 qui sont sur place, il y a 7 qui sont en soins intensifs, réanimation, et le reste se trouve à l'hospitalisation ordinaire. Les soins intensifs sont limités à seulement 7 lits, de telle sorte que alors il y a des patients qui attendent longtemps avant de pouvoir trouver de la place en réanimation. Pour avoir de la place en réanimation, soit le patient y va un peu mieux, on fait un échange, on le fait retourner à l'hospitalisation ordinaire pour prendre un malade beaucoup plus grave que lui. Ou il y a un décès, malheureusement, ça existe aussi, ça fait de la place. On n'a pas la possibilité d'augmenter la capacité de réanimation comme on veut. Nous sommes en train de créer une zone qu'on appelle la zone pré-réanimation. Et nous allons renforcer la capacité de prise en charge dans cette zone qui va pouvoir désengorger un tout petit peu et soulager les cas graves qui vont arriver. Alors, ces virus regardent tout simplement nos comportements. Au moment où on se met ensemble pour respecter ces mesures, il descend et il disparaît. Mais dès que nous baissons les bras, il revient encore.
Écoutons à présent la question d'auditeur du jour, puis la réaction de professeur Daouda Kassoum Menta, membre du comité scientifique COVID-19 du Mali.
Allô docteur, à propos du port des masques, est-ce que c'est vrai que nous réabsorbons les dioxydes de carbone que nous dégazons?
Il y a des normes de l'OMS, même la qualité même du masque là a été fabriquée selon ces normes. C'est-à-dire que quand vous prenez le masque, vous inspirez et vous expirez, c'est comme si ça vous tirait, il vous suit. Quand vous revenez, il gonfle encore. Donc ça veut dire qu'il filtre les matières virales. Donc le virus, il traverse, mais l'oxygène, il est plus léger encore. Il n'y a pas de souci pour ce problème d'oxygène.
C'est ce qui met fin à l'actu COVID d'aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de respecter les mesures barrières pour vous protéger et protéger vos proches.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions en quelques brèves, un agent de la garde pénitentiaire a été tué dans la nuit du 10 décembre 2021 par deux hommes armés non identifiés à Moto, quartier Château, dans la ville de Gao. Selon des sources locales, les assaillants sont partis avec la moto de la victime après leur forfait. Des forains burkinabés en partance pour la foire hebdomadaire de Koura Mopti ont été braqués par des hommes armés non identifiés vendredi dernier 10 décembre. Les faits se sont déroulés entre Koro-Ouhou et Waïgouya. D'après les sources locales, il n'y a pas eu de blessés ni de morts, mais les victimes de ce braquage ont été dépouillées de leurs biens. Et c'est ce qui met fin à ce journal présenté par Sikou Gadjigo, à la mise en onde Gagné Kanté. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le magazine. C'est Dr. Mani.